Il est tout juste 11h30 temps universel, midi et demi ici à Paris, de Dakar à N'Djamena en passant par Tbilissi et Port-au-Prince. Bienvenue, bonjour.
Charlotte Hydrac.
On va faire ensemble le tour du monde dans les deux prochaines heures. Reportage, témoignage, décryptage, avec à la une ce vendredi 29 novembre la fin des accords de coopération et de défense entre le Tchad et la France. Annonce surprise de N'Djamena qui parle d'un tournant historique et cela juste après une visite du ministre des Affaires étrangères français. De son côté, le président du Sénégal indique que la France va devoir fermer ses bases militaires dans son pays sans calendrier précis pour l'heure. Il faut inverser les rôles, dit Bassirou Diomaye Faye.
Est-ce qu'en tant que Français, vous envisagez de nous voir dans votre pays avec des chars ou avec des véhicules militaires, des militaires sénégalais avec les tenues sénégalaises? Comme ça, parce que sur le plan historique, la France a esclavagisé, a colonisé et est restée.
RFI Midi.
L'armée française déjà brutalement poussée vers la sortie au Mali, au Burkina Faso, au Niger. L'enseignant-chercheur Arthur Banga, c'est notre invité depuis Abidjan, Côte d'Ivoire. À suivre aussi un recomptage des bulletins de vote en Roumanie après le résultat choc du candidat d'extrême droite Calin Georgescu au premier tour de la présidentielle. La délicate question de la fin de vie, étudiée par les députés en ce moment au Royaume-Uni, un texte qui permettrait l'aide à mourir pour certains malades en phase terminale. Nathaniel Diaye, atteint d'un cancer, veut pouvoir choisir.
Je sais que certains médecins pensent que leur métier, c'est de maintenir les gens en vie. Mais est-ce que le maintien en vie d'un patient est vraiment toujours l'approche la plus compassionnelle? Est-ce que la décision ne devrait pas m'appartenir?
Les débats sont donc en cours à Londres et ils dépassent les clivages partisans, vous l'entendrez. 13h temps universel, l'actualité des Amériques. Aux États-Unis, ces clivages sont particulièrement marqués après la victoire de Donald Trump. Mais beaucoup espèrent une trêve en ce week-end de Thanksgiving avec une règle autour de la dinde, éviter les discussions politiques. Merci de nous accompagner. RFI Midi, c'est parti.
RFI, l'Europe à midi.
Saccard vélo, ça veut dire Géorgie, l'un des slogans scandés la nuit dernière par des manifestants à Tbilissi, mobilisation dans la capitale et d'autres villes du pays, juste après la décision du gouvernement de repousser les négociations d'adhésion à l'Union européenne. Ce ne sera pas à l'ordre du jour avant 2028. Bonjour Régis Janté. Régis Janté en direct de Tbilissi, vous avez suivi les manifestations la nuit dernière. Les protestations, vous l'avez constaté, sont entrées dans une nouvelle phase.
Oui, en effet, même s'il faudra attendre confirmation ce vendredi soir, puisqu'un nouveau rassemblement est prévu à 19h heure locale, qui sera lui préparé, contrairement à celui spontané d'hier, juste après l'annonce du Premier ministre. Le rassemblement de ce jeudi soir n'était pas massif en réalité, mais l'ambiance était différente des précédents, beaucoup plus nerveuse. Côté manifestants, qui étaient peut-être 15 ou 20 000 personnes, eh bien on a érigé des barricades, incendié des poubelles, tenu tête aux forces de maintien de l'ordre jusqu'à 7h du matin, malgré les gaz lacrymogènes, les canons à eau, les brutalités policières. Et ça, c'est nouveau. Côté autorité, on est monté d'un cran aussi. 43 manifestants ont été arrêtés dans la nuit et une vingtaine de journalistes ont été molestés, probablement ciblés comme tels.
Mais alors, Régis, pourquoi ce changement d'humeur parmi les opposants au pouvoir ?
Trois raisons, je crois, parce qu'en annonçant le gel des efforts d'intégration de la Géorgie à l'UE, eh bien, le Premier ministre a enfin prononcé les mots qui prouvent que c'est là que voulait en venir le parti au pouvoir, le rêve géorgien de l'oligarque Bidzina Ivanishvili, c'est-à-dire à la rupture avec l'Occident et donc au retour du pays dans la sphère d'influence russe, l'ex-puissance coloniale, ce qu'il ne peut pas dire comme tel, parce que 80% des Géorgiens disent vouloir que leur pays devienne membre de l'UE. La deuxième raison, c'est aussi que les fraudes lors des parlementaires du 26 octobre ont été manifestement massives. Et c'est enfin que l'oligarque qui règne sur le pays a promis à plusieurs reprises des répressions après ces parlementaires, de bannir les partis politiques et les organisations de la société civile pro-occidentaux.
Après effectivement ces élections législatives, merci à vous Régis Janté à Tbilissi. On suivra avec vous donc les nouvelles mobilisations annoncées là cet après-midi.
RFI à Bucarest.
93.5 FM.
On évoquait l'influence russe. Elle a aussi gagné du terrain en Roumanie, en plein marathon électoral en ce moment. Des législatives sont prévues ce week-end, avant le second tour de la présidentielle, prévu en principe le week-end suivant. Et après cette énorme surprise du premier tour, la qualification du candidat d'extrême droite, Kalin Georgescu, que les sondages n'avaient pas vu venir. Bonjour Mihaela Rodina.
Bonjour.
Ancienne responsable du bureau de l'AFP, l'agence France Presse à Bucarest. Vous êtes journaliste pour l'infolettre Regard, hein, pour comprendre la société roumaine au-delà de l'actualité. D'abord, comment est-ce que la Roumanie a encaissé ce choc du premier tour cette semaine, cette affiche surprise? On imagine que tout le monde, tous les médias n'ont parlé que de ça.
Oui, absolument. C'était un énorme choc pour la Roumanie, pour les Roumains. Personne ne s'attendait, comme vous le disiez. Ce candidat pro-russe est passé sous les radars. Personne ne l'a vu venir. Il ne figurait pas dans les sondages. Il figurait très bas. Alors, la Roumanie, effectivement, s'est réveillée lundi, au lendemain du premier tour de la présidentielle, en découvrant ce candidat. Depuis, tout le monde ne parle que de lui. Les gens regardent sur Internet pour voir un peu à quoi il ressemble, parce qu'il n'était pas du tout connu. Mmh. Et on découvre, en effet, un candidat qui milite pour un rapprochement avec la Russie, pour cesser toute aide à l'Ukraine, alors que la Roumanie est frontalière de l'Ukraine. Un candidat qui prend un peu, qui a un discours souverainiste, qui assure que la Roumanie pourrait devenir la première puissance économique au monde, juste en cultivant ses terres agricoles et en nationalisant les compagnies détenues par des capitaux étrangers. Donc, c'est un discours qui tranche beaucoup avec les discours qu'on avait jusqu'ici.
Restez avec nous, on va y revenir, Mihaela Rodina. Je voudrais juste qu'on revienne sur cette influence de la plateforme TikTok. Hein, selon le Conseil suprême de la Défense nationale, ce candidat, Kalin Georgescu, a bénéficié pour cette élection d'une exposition massive grâce à un traitement préférentiel sur TikTok, une application très prisée en Roumanie, Pierre-Olivier.
Kalin Georgescu, crédité de 5% des voix dans les sondages avant le premier tour, a finalement obtenu 23%. Un exploit qui n'a pas manqué d'attirer l'attention du Conseil suprême de la Défense nationale roumain, qui s'interroge sur cette campagne massive menée par le candidat d'extrême droite sur TikTok.
Sa campagne a largement utilisé TikTok et Telegram pour diffuser des messages très nationalistes.
Denisa Avram, experte en politique numérique.
Il n'y a rien d'illégal, mais on se pose la question, comment est-ce que ces vidéos là n'ont pas été marqués comme publicité politique. Il a déclaré aussi qu'il a dépensé 0 € dans sa campagne électorale. C'est quand même impossible, ça. Et on sait que des gens et des influenceurs ont été payés. Qui les ont payés et comment?
Le régulateur d'Internet roumain soupçonne la Russie d'avoir joué un rôle dans cette campagne, Denisa Avram.
On sait qu'il y a des groupes qui sont liés à la Russie. On sait qu'il y a des intérêts géopolitiques. On sait que ces candidats, ils sont aussi très bien alignés idéologiquement.
Alors que des élections législatives auront lieu ce week-end en Roumanie, le Conseil suprême de la Défense demande l'instauration de mesures d'urgence pour mieux contrôler les réseaux sociaux.
Voilà, Mihaela Rodina, on vous retrouve en direct. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de ce rôle attribué à TikTok dans le processus électoral en Roumanie? TikTok qui se défend, hein, de tout traitement préférentiel.
Oui, on a découvert nous aussi que TikTok avait joué un rôle crucial dans cette élection. Le candidat Kalin Georgescu avait fait campagne quasi uniquement sur TikTok. C'est pour ça qu'on ne l'avait pas vu venir. Il n'y a pas eu d'affiche ou de débat électoral avec lui. Donc, on a découvert après coup qu'il y avait des milliers de faux comptes en son nom, des comptes, on ne sait pas s'ils étaient financés de Russie ou non, mais qui distribuait massivement ses messages, qui les partageait, les multipliait pour les faire viraux. Et comme disait votre experte auparavant, on a aussi découvert que des influenceurs ont été payés pour faire campagne pour Monsieur Georgescu, alors que cela est formellement interdit. Le Conseil suprême de défense a en effet découvert hier ces influences en évoquant des actions hostiles de la Russie. Mmh. On se demande si effectivement il y a eu un financement russe pour ce candidat. Braga et j'espère que les autorités feront la lumière sur cette question.
Alors là, la Cour constitutionnelle a ordonné le recomptage des voix du premier tour. Ça pourrait prendre des jours, ça ouvre une phase de grande incertitude, non ?
Voilà, ça ouvre une nouvelle période d'incertitude. Là, plus personne ne sait plus à quoi s'attendre. Le recomptage a commencé, mais ça pourrait prendre des jours. De toute façon, le bureau électoral a donné le délai, a imparti le délai de dimanche soir pour que les voix soient recomptées. Et il y a trois cas de figure. Soit le nouveau décompte confirme les deux candidats arriver en tête au premier tour, soit ça peut l'ordre peut changer, ou encore si le bureau constate des fraudes, la Cour constitutionnelle constate des fraudes, elle peut carrément demander l'annulation du premier tour. Et alors c'est vraiment une nouvelle période d'incertitude.
Et donc des doutes même sur un éventuel ce second tour qui est prévu en principe le 8 décembre. Et là, voilà. Les législatives qui sont prévues ce week-end. Un grand merci à vous, Mihaela Rodina, donc notre consoeur de l'info. Lettre regard, j'ajoute en bref, ces législatives qui se déroulent aujourd'hui en Irlande. Les opérations de vote ont débuté ce matin après une campagne express. Et là, les observateurs prédisent un scrutin serré entre les trois principaux partis.
RFI. L'Europe à midi.
11h40 à Londres, où l'examen d'un texte potentiellement historique a débuté ce matin au Parlement, un sujet très délicat, voire tabou, sur la légalisation du suicide assisté. C'est une élue travailliste qui présente le texte. Il prévoit de permettre donc une assistance à mourir pour les malades en phase terminale et dont le pronostic ne dépasse pas les 6 mois. Pour ou contre, près de 10 ans après le rejet d'un texte similaire, la question reste très clivante. Reportage Emeline Vin.
Il se déplace rarement sans son trombone vert, même pour aller voir l'oncologue qui le suit pour son cancer colorectal. Nathaniel Dye travaille sur un album et sur une campagne très personnelle, le droit de choisir sa propre mort.
Je vais probablement mourir de ce cancer dans les 5 prochaines années. Pour l'instant, j'ai la chance d'avoir peu de symptômes. Je peux encore courir des ultramarathons, mais j'ai eu un aperçu de ce qui peut m'arriver. Je vous parle d'une douleur insupportable. Si celle-ci devenait permanente, je crois que la mort ne serait pas la pire des issues pour moi.
Le visage barbu, les lunettes rectangulaires de cet enseignant en musique apparaissent souvent aux côtés de la députée travailliste Kim Ledbetter. Il soutient son projet de légaliser l'assistance à mourir pour les adultes ayant toutes leurs facultés mentales, mais dont le pronostic vital ne dépasse pas les 6 mois.
En tant que personne capable d'autodétermination, je ne vois pas pourquoi cette décision ne peut pas m'appartenir. Je sais que certains médecins pensent que leur métier, c'est de maintenir les gens en vie. Mais est-ce que le maintien en vie d'un patient est vraiment toujours l'approche la plus compassionnelle? Est-ce que la décision ne devrait pas m'appartenir?
Nathaniel Dye fait campagne avec Dignity in Dying, mourir dans la dignité. Parmi les autres militants de l'ONG, Sophie Blake, visage d'une nouvelle campagne de sensibilisation. Maman d'une adolescente de 17 ans, cette ancienne commentatrice sportive a un cancer du sein incurable.
Quand les antidouleurs ne fonctionnent plus, il faut qu'on puisse dire « cette personne est en train de mourir, ne prolongeons pas son agonie ». Cela traumatise les familles. Je ne veux pas que ma fille ait d'affreux souvenirs de ma mort en grandissant. Pareil pour ma mère. Le fait de pouvoir avoir le contrôle à la fin, c'est important pour moi, mais aussi pour elle.
Elle a lu les 40 pages du projet de loi de Kim Ledbetter.
Kim a travaillé sur ce texte en se basant sur les autres pays où l'assistance à mourir est en place et fonctionne, sans abus. Dans l'Oregon, par exemple, cela fait 25 ans. Et la majorité des personnes qui en font la demande ne l'utilisent pas parce que les soins palliatifs fonctionnent, parce qu'elles meurent paisiblement. Mais cela leur offre une certaine tranquillité d'esprit. Elles vivent avec une maladie incurable, mais elles savent qu'elles ne souffriront pas à la fin.
Parmi les arguments contre le texte, il y a les convictions religieuses, philosophiques, et la crainte que certains malades ne soient poussés au suicide par leurs proches. La quinquagénaire souligne pourtant la solidité du projet de loi.
Cela ne se fera pas en 5 minutes. Il ne suffira pas de dire « je veux ça » et le lendemain, c'est fait. Il faudra que 2 médecins indépendants parlent aux patients chacun de leur côté. Ensuite, c'est un juge qui devra valider la décision. Cela permettra aussi d'en parler ouvertement avec le corps médical. Pour l'instant, la loi l'interdit.
Selon les derniers sondages, 7 Britanniques sur 10 soutiennent l'assistance au suicide, en principe. À noter, le texte ne s'applique pas en cas de maladie chronique ou de handicap. Côté corps médical, c'est plus flou. La British Medical Association, le principal syndicat du secteur, longtemps contre, se déclare aujourd'hui neutre.
Évidemment, ce projet nous intéresse, parce qu'il concerne non seulement les médecins, mais surtout nos patients.
Andy Green dirige le comité éthique de la BMA.
Notre condition principale, c'est le droit à la clause de conscience. L'assistance à mourir ne doit pas faire partie de la routine de tous les docteurs, seulement de ceux qui sont activement volontaires. Et bien sûr, nous insistons sur le fait qu'il faut de nouveaux financements, qu'aucun fonds ne doit être retiré du budget existant de l'hôpital public, en particulier les services palliatifs, déjà sous-financés et sous pression.
Le syndicat ne se prononcera ni sur le fond, ni sur les critères d'éligibilité. Les partis ne donneront pas de consigne de vote. À 10 jours de l'ouverture des débats, les doyens de la Chambre des communes ont appelé à rejeter le projet. Ils réclament plus de temps pour l'examiner et craignent des dérives eugénistes. En cas de rejet, Nathaniel Dye, le professeur tromboniste, envisagera de partir en Suisse.
Ce serait une décision horrible à prendre. Cela coûte près de 20 000 euros. Si les membres de ma famille m'aident, ils risquent d'être poursuivis. Je mourrai seul et je n'aurai pas de funérailles.
L'année dernière, une quarantaine de Britanniques sont partis pour mourir. Si le texte est validé ce vendredi, il entamera son chemin parlementaire qui durera au moins 6 mois. Emeline Vin, Londres, RFI.
Et la députée travailliste à l'origine de cette proposition a déclaré là tout à l'heure en ouverture des débats que l'opinion publique est en faveur, selon elle, d'un tel changement législatif. On y reviendra donc évidemment si ce vote est voté, si ce texte est voté ou pas. C'est un nom qui a fait beaucoup parler à Strasbourg ces derniers jours, qui a crispé les eurodéputés de gauche. Nom Fitto, prénom Raffaele. Raffaele Fitto, désormais vice-président de la Commission européenne, commissaire à la cohésion des territoires. Il est italien et membre du parti d'extrême droite Fratelli d'Italia de Giorgia Meloni. C'est une victoire pour l'extrême droite qui a suscité, on l'a dit, beaucoup de tensions ces dernières semaines. Carlotta Morteo, qui est vraiment Raffaele Fitto? Est-ce que le loup est entré dans la bergerie, hein, comme le pensent certains?
Bah c'est sûr que le fait que l'extrême droite occupe une des vice-présidences de la Commission européenne, symboliquement, hein, c'est un tournant. Mais en réalité, si on regarde de plus près, Raffaele Fitto, c'est ni un néofasciste, ni un extrémiste. Il est même l'une des figures les plus modérées du parti Fratelli d'Italia, et c'est bien pour cela que Giorgia Meloni l'a proposé à Bruxelles. C'est bien ce que nous dit Giulia Sandri, chercheuse à l'Université libre de Bruxelles.
C'était un peu la personnalité un peu plus sérieuse de son gouvernement quand il a été nommé ministre des Affaires européennes en 2022 après les élections remportées par Meloni. Parce qu'après, Meloni avait nommé dans des postes de gouvernement ses fidèles, sa garde rapprochée, mais c'était des personnes qui avaient moins d'expérience politique ou nationale et certainement pas européenne, comme Fitto. Donc c'est un peu la dimension de respectabilité et d'expérience que Meloni voulait donner à son gouvernement, ben c'était représenté par Fitto. Ça fait partie de cette stratégie de rapprochement de Meloni aux institutions européennes, de montrer que le parti n'était plus le parti eurosceptique, pro-Russie, anti-Atlantique qui était avant, mais qui, tout en ayant des positions un peu souverainistes, un peu avec une vision assez spécifique de l'intégration européenne, respectait quand même le processus d'intégration, respectait les règles européennes.
Alors, Raffaele Fitto est en fait l'incarnation même du glissement, c'est ça, qui s'est opéré du centre vers la droite conservatrice, en Italie et même ailleurs.
Voilà, c'est un homme issu d'une famille bourgeoise du sud de l'Italie. Son père était le président régional des Pouilles. Il meurt dans un accident de voiture quand Raffaele Fitto a 19 ans. C'est là qu'il entre en politique, il va suivre les pas de son paternel, faire ses classes au sein de la démocratie chrétienne, une famille politique dont le nouveau commissaire européen conserve la modération, la foi catholique et une certaine sensibilité européenne dans la tradition de De Gasperi, l'un des pères de l'Europe. Mais dans les années 90, la démocratie chrétienne, le bateau amiral du centre droit italien, fait naufrage suite à l'opération main propre qui révèle la corruption endémique de la classe politique italienne. Et c'est là que Raffaele Fitto rejoint Silvio Berlusconi, l'entrepreneur d'ailleurs providentiel qui va permettre de tourner la page. C'est sous sa bannière, Forza Italia, que Raffaele Fitto va devenir président de la région des Pouilles, comme son père, avant d'être propulsé ministre des Affaires régionales de 2018 à 2011 par le Cavaliere lui-même.
Et c'est là que Raffaele Fitto sympathise avec celle qui est alors ministre de la Jeunesse, Giorgia Meloni.
Oui, tout à fait, mais Raffaele Fitto ne partage pas avec elle son idéologie. Si on en croit Lorenzo Castellani, spécialiste des institutions politiques à l'Université Louise de Rome, il est avant tout un politicien de carrière et a fait un choix pragmatique.
Quand le parti de Berlusconi s'est morcelé dans les années 2015-2016, il s'est uni à Giorgia Meloni parce que, en tant qu'élu bien ancré dans son territoire, il a senti le vent tourner. Certains ont rallié la Ligue de Matteo Salvini. Lui a choisi ce petit parti, Fratelli d'Italia. C'était un bon pari. Fitto n'est pas dans le cercle rapproché intime de Giorgia Meloni. Ils se reconnaissent mutuellement comme des politiciens fiables, de parole, qui maintiennent leurs promesses. En somme, elle peut compter sur lui, il n'est pas enclin aux coups de tête, aux déclarations gênantes ou grandiloquentes, il travaille discrètement, il n'aime pas être sous les projecteurs. Il n'est certainement pas un homme de combat, plutôt de compromis. Donc sans aucun doute, il était la meilleure carte que Meloni pouvait jouer au niveau européen.
Raffaele Fitto a été eurodéputé de 2014 à 2022 et il était actuellement ministre pour les affaires européennes de l'Italie.
Et c'est donc un homme expérimenté qui aura la charge de la politique de cohésion de l'Europe.
Tout à fait. C'est aussi quelqu'un qui est réputé à Bruxelles pour savoir construire des ponts entre son groupe, les conservateurs et réformistes européens, la droite et le centre de l'hémicycle, de quoi servir aussi les intérêts de la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, qui n'a pas de majorité garantie au Parlement et va devoir composer avec les voix de l'extrême droite.
Et le nouveau collège de commissaires doit entrer en fonction le 1er décembre, la dimanche, pour une période de 5 ans. Grazie mille, avec l'accent Carlotta Morteo.
Buona giornata.
RFI Midi. Un monde de tech.
Pour l'instant, c'est garanti, ma voix n'est pas générée par une intelligence artificielle. La vôtre, Dominique Dezonnet, non plus. Bonjour.
Bonjour Charlotte.
En revanche, sur LinkedIn, le réseau social professionnel de Microsoft, de plus en plus de messages sont générés par des programmes d'IA et non pas par des humains. C'est ce qu'on apprend dans une étude de la société Originality AI, spécialisée dans la détection de contenu et de plagiat réalisé par les IA. Plus de la moitié des messages publiés sur LinkedIn sont donc générés par des programmes d'IA, Dominique.
Oui, et en fait, rien de très surprenant, en définitive, dans cette étude qui nous apprend que les abonnés à l'offre payante LinkedIn Premium utilisent massivement des générateurs automatiques de texte, comme peut l'être d'ailleurs le programme ChatGPT. L'étude de la jeune pousse américaine a été menée à l'aide d'un détecteur des contenus réalisé par intelligence artificielle. L'outil développé par la société permet ainsi de repérer un texte créé par IA, de détecter des contenus plagiés ou d'analyser la visibilité d'un texte. Ce dispositif, moyennant un abonnement payant, est destiné aux maisons d'édition ou aux agences marketing qui souhaitent prouver à leurs clients que les textes fournis sont authentiques. Les enquêteurs de la jeune pousse américaine ont analysé environ 9000 publications et messages de plus de 100 mots diffusés sur le réseau social LinkedIn, des contenus en langue anglaise qui ont été mis en ligne entre janvier 2018 et octobre 2024. Premier constat, le nombre de ces publications a littéralement explosé en 2023, augmentant ainsi de 189% par rapport à l'année précédente, indique l'étude.
Mais alors, quel type de message les abonnés de ce réseau pro LinkedIn publient-ils avec une IA ?
Alors là, on trouve de tout. Les internautes à la recherche d'un emploi ont recours à ces programmes pour rédiger un message capable de convaincre des recruteurs. L'IA peut être utilisée pour écrire rapidement des messages privés, publier une lettre de motivation, mettre à jour un CV ou son profil professionnel qui apparaît sur son compte en ligne. Deuxième point d'analyse qui ressort de cette étude, les dirigeants de LinkedIn sont en grande partie responsables de l'explosion des contenus générés par intelligence artificielle. La plateforme sociale qui appartient à la firme Microsoft encourage l'utilisation de l'IA auprès de ses abonnés. Le géant américain profite de la notoriété de son réseau pro pour mettre en avant ses solutions IA, notamment Copilot, qui est une version de ChatGPT. Toutefois, Microsoft affirme tout mettre en œuvre pour lutter contre des contenus générés par IA qui seraient de piètre qualité sur son réseau social.
Mais LinkedIn n'est pas la seule plateforme à se retrouver submergée par des contenus rédigés par l'IA.
Oui, citons la plateforme de vente en ligne Amazon, sur laquelle on ne compte plus le nombre de livres qui ont été entièrement rédigés par IA, mais ce phénomène est mondial et rien. Personne ni aucune plateforme numérique n'échappe au déploiement des IA dites génératives. Entreprises, services publics, industries, milieux artistiques, presse en ligne, réseaux sociaux, santé, finances et bien d'autres. Même les cybercriminels s'y mettent pour monter leurs arnaques en ligne et les complotistes de tout poil pour nous générer des montagnes d'infox.
Un monde de tech, Dominique Dezonnet. Merci, Alain. Elle l'a écrit avec ses souvenirs, ses questions sur un père légendaire mais mortifère. Virginia Tangwald vient de publier « Les enfants du large » aux éditions Jean-Claude Lattès, un livre inspiré de sa famille et donc particulièrement de son père, le célèbre navigateur norvégien Peter Tangwald, aventurier, explorateur, mais surnommé parfois le barbe bleue des mers. Virginia Tangwald est votre invitée, Catherine Fuchon-Toussaint.
Bonjour Virginia Tangwald.
Bonjour Catherine.
Vous êtes la fille de Peter Tangwald, aventurier légendaire. Vous êtes née sur son voilier, mais 2 ans après, votre mère a décidé de s'enfuir avec vous. Vous pensez qu'elle vous a sauvé la vie ?
Oh, elle m'a absolument sauvé la vie. Et vraiment parce qu'elle avait un pressentiment, un instinct, parce que c'était pas planifié. Elle était partie faire des courses et... elle a vu des gens sur des terrasses de café en train de faire leur vie, puis elle s'est sentie comme si elle vivait à l'écart du monde, un peu comme dans une secte, et elle a décidé comme ça, sur un coup de tête, de s'enfuir.
Il faut dire qu'elle était la 7e femme de votre père, que certaines de ses précédentes compagnes avaient disparu, mystérieusement donc, étrangement. Et d'ailleurs, en 1991, un nouveau drame arrive, puisque votre père et votre sœur Carmen, âgée de 8 ans, meurent dans un naufrage. Un accident qui, compte tenu de son expérience de marin, n'aurait pas dû avoir lieu. Qu'en pensez-vous ?
C'est incompréhensible. Il aurait dû savoir que c'était la route la plus dangereuse, que c'était la route la moins marine à prendre, celle qui était exposée au vent les plus sauvages, et il l'a pris quand même. Je ne sais toujours pas quoi en faire. Il faut vivre avec ce mystère.
À ce naufrage, survit votre frère aîné, Thomas, qui, malgré le traumatisme de sa propre mère assassinée auparavant, de sa petite sœur et de son père noyé, devient à son tour navigateur. Jusqu'à ce qu'il disparaisse il y a 10 ans. Vous avez pensé à une malédiction ?
Oui, j'ai eu du mal à comprendre pourquoi le malheur se répétait, pourquoi la tragédie frappait toujours sur nous, sur la descendance.
À quel moment est-ce que vous avez commencé à vous poser des questions sur votre famille, sur votre père, sur vos frères et sœurs ?
J'ai toujours eu soif de comprendre plus parce que j'avais seulement connu mon père au travers de la mythologie de mon père. Puisque c'était un navigateur célèbre, il y avait des articles qui avaient été écrits sur lui, il avait publié des autobiographies. Alors, j'avais toujours eu soif de le connaître au travers de ses écrits, d'autant plus que je me sentais en errance et avec une identité incertaine, fragmentée. J'avais d'autant plus soif de connaître mon père. Mais il y avait toujours eu cette tension de... Je trouvais que sa quête était tellement belle et lumineuse, galvanisante. Mais en même temps, je voyais bien comment elle avait conduit tout le monde vers la mort. Alors j'avais toujours vécu avec cette tension. Mais quand je me suis vraiment mis à me poser des questions et à me dire qu'il y avait des problèmes et qu'il fallait que je trouve une solution ou que je passe au travers un cap... que je passe le cap, c'était quand mon frère est disparu en mer il y a 10 ans et que je me suis dit, ça y est, la prochaine, c'est moi.
Merci beaucoup, Virginia Tangwald. Je rappelle le titre, Les enfants du large, qui a paru aux éditions Jean-Claude Lattès.
Merci à vous, Catherine.
Catherine Fruchon-Toussaint, qu'on retrouvera tout à l'heure dans Littérature sans frontières, 13h30, temps universel.
RFI N'Djamena, 100.2 FM.
D'ici là, le journal dans moins d'une minute. Et puis Afrique Midi avec vous, Nicolas Sûr, 13h30, heure de Paris. À la une.
Cette annonce surprise, cette nuit à N'Djamena, le Tchad met fin aux accords de sécurité et de défense avec la France. Le ministre tchadien des Affaires étrangères l'a fait savoir quelques heures à peine après une visite du chef de la diplomatie française, Jean-Noël Barrot. À Paris, tout le monde est pris de court. La France va devoir aussi fermer ses bases au Sénégal. C'est ce que déclare le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye, qui salue par ailleurs la reconnaissance par Paris du massacre de Tiaroy. Emmanuel Macron lui a écrit une lettre. Jusqu'à présent, la France parlait plutôt de mutinerie ou de répression.
À tout à l'heure, Nicolas Sûr, Afrique Midi, dans une demi-heure.